Radio Classique, les spécialistes.
Et à 7h40 sur Radio Classique, gros plan sur le deuxième sommet de la communauté politique européenne. Il se tient aujourd'hui en Moldavie. 47 chefs d'État et de gouvernement pour tenter de jouer l'unité face à Moscou. 40 chefs d'État et de gouvernement, dont Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Viktor Orban ou encore Rishi Sunak. Bonjour Florent Parmentier.
Bonjour.
Vous êtes politologue, secrétaire général du CEVIPOF, spécialiste des relations Russie-Europe. La CPE, la communauté politique européenne, c'est quoi exactement? C'est un espace politique informel en quelque sorte?
Oui, il faut se souvenir que la communauté politique européenne, c'est une institution finalement très jeune.
Oui.
Très jeune puisque l'idée a émergé lors d'un discours d'Emmanuel Macron le 9 mai 2022 au Parlement européen à Strasbourg, dans lequel il préconisait une forme d'arrangement souple, pratique, avec des chefs d'État et de gouvernement, avec une ambition qui était de dire, face aux lourdeurs, aux pesanteurs institutionnelles, il faut que nous ayons quelque chose qui ressemble à un forum, quelque chose qui ressemble au G20. Et donc, c'est le premier élément, c'est que c'est quelque chose qui est en dehors de l'Union européenne, qui regroupe à peu près les pays du Conseil de l'Europe, donc c'est plus large que l'Union européenne, et ce qui doit être observé, c'est qu'il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas d'institution formelle, il n'y a pas non plus de mécanisme de prise de décision particulier.
Donc il y a des pays comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Allemagne, mais aussi des pays beaucoup plus petits. Je pense à la Principauté de Monaco, à Andorre, etc. Quoi. C'est vraiment toute l'Europe au sens large.
C'est l'ensemble de l'Europe, à l'exception de la Biélorussie et de la Russie.
Ouais.
Donc on a quelque chose effectivement qui dans son format est assez spécifique et dans sa manière d'être en quelque sorte. Il faut aussi observer, c'est un autre élément, que cette communauté politique européenne, elle est très souple, mais elle est aussi très jeune. Elle est très jeune et le point entre les deux, c'est que il n'a fallu finalement que 5 mois entre l'idée qui a été lancée, donc par Emmanuel Macron en mai 2022, et la première réalisation qui était en octobre dernier.
À Prague.
Le sommet de Prague.
Ouais.
Donc c'était le pays à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Cette fois-ci, on est dans un autre pays, un autre cadre, qui est un pays en dehors de l'Union européenne, à savoir la Moldavie.
Et justement, le choix de la Moldavie, c'est tout sauf un hasard, Florent Parmentier.
Oui. C'est tout sauf un hasard parce que il fallait montrer que cette communauté politique européenne n'était pas une simple extension de l'Union européenne. Et donc, délocalisée dans un État qui n'est pas encore membre de l'Union européenne, qui est un État reconnu candidat depuis juin dernier, c'était un moyen de dire que cette communauté politique européenne, finalement, elle sera ce qu'on en fait. Ça, c'est un message vis-à-vis de la Moldavie, vis-à-vis des pays des Balkans, de l'Ukraine, de la Géorgie, qui ont une perspective, un intérêt, voire même une candidature déjà engagée vers l'Union européenne.
La Moldavie qui subit les pressions de Moscou.
La Moldavie, effectivement, il faut le rappeler, peut-être si on n'a plus la carte d'Europe en tête, c'est ce petit État qui se situe entre la Roumanie et l'Ukraine. Et par conséquent, la Moldavie a été l'un des États les plus directement impactés par la guerre en Ukraine. Ça a commencé il y a à peu près plus d'un an, au mois de mars dernier. La Moldavie a vu des centaines de milliers d'Ukrainiens réfugiés passer sur son territoire. Il faut rappeler que la population de la Moldavie aujourd'hui, à l'intérieur de ses frontières, c'est seulement 2,6 millions d'habitants. Donc on a quelque chose de massif pour ce pays qui, depuis, en effet, même depuis son indépendance en réalité, a été victime d'un certain nombre d'interférences de la Russie, avec une présidente, Maia Sandu, qui accueille aujourd'hui le sommet de la communauté politique européenne, qui elle-même a des relations de plus en plus tendues avec Moscou.
Mais l'idée, c'est de montrer l'unité, j'allais dire, de l'Europe face au Kremlin. Et c'est possible quand il y aura sur la même photo de famille Viktor Orban, Emmanuel Macron ou Rishi Sunak, par exemple?
Oui, il y aura, d'ailleurs, ce qui est intéressant à observer, vous mentionniez le Premier ministre britannique et le Premier ministre hongrois.
C'est des visions assez opposées, on va dire, sur la question de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Des visions tout à fait opposées, mais qui organiseront eux-mêmes bientôt leur communauté politique européenne, leur propre sommet.
Ouais.
Donc ça, c'est un élément intéressant. Oui, on peut même aller plus loin. On aura normalement dans ce même sommet des représentants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, qui était il y a quelques mois encore en guerre, et de la Turquie, qui en termes d'implication régionale, de position par rapport au conflit en Ukraine, n'est pas exactement sur la même longueur d'onde que beaucoup d'Européens.
Erdogan ne viendra pas. En revanche, on ne sait toujours pas si Volodymyr Zelensky effectuera le déplacement en Moldavie.
Volodymyr Zelensky a aujourd'hui des relations privilégiées avec la présidente moldave, qui à plusieurs moments a pu marquer son soutien. Il est possible qu'il vienne, mais naturellement c'est contingent par rapport à la situation sur le front et par rapport aux préparatifs d'une contre-offensive qui est annoncée à Kiev très prochainement.
Avant la Moldavie, Emmanuel Macron était hier à Bratislava. En Slovaquie, il a beaucoup parlé de l'Europe, de l'avenir de l'Europe. Il n'y a qu'une seule Europe. C'était une sorte de mea culpa, en quelque sorte, sur la politique de la politique française depuis une trentaine d'années vis-à-vis de ce qu'on appelait les pays d'Europe de l'Est.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses importantes qui ont été dites par Emmanuel Macron, ce que vous avez mentionné, et puis il y avait également un autre élément qui était de dire on a manqué une bonne occasion de vous écouter, qui faisait en quelque sorte écho à la déclaration de Jacques Chirac à un moment de la guerre en Ukraine, au moment de la guerre en Irak, oui. Qui était de dire voilà, vous avez manqué une bonne occasion de vous taire.
Au moment où les pays plutôt d'Europe de l'Est soutenaient les États-Unis dans ce conflit en 2003.
En Irak, avec certainement des résultats catastrophiques qu'on connaît. Néanmoins, ce qui avait été retenu à l'époque, c'est une forme d'arrogance française, et donc cela avait renforcé des stéréotypes qui veut que la France était systématiquement, ces dernières décennies, un pays qui souhaitait d'abord les réformes des institutions européennes avant l'élargissement. Là, le changement, c'est qu'Emmanuel Macron va essayer de proposer les deux en même temps, et donc de faire sentir à l'ensemble des pays centro-européens que c'est aussi de leur responsabilité de transformer les institutions européennes de manière à ce que cet élargissement puisse être fait. Car il faut rappeler, je pense que c'est un élément important, que depuis 2003, les États des Balkans, l'Europe du Sud-Est, comme on l'appelle, ont, depuis le sommet européen de Thessalonique en 2003, une perspective d'élargissement, une promesse de faire partie du groupe, et que depuis lors, on a une forme de fatigue d'élargissement, et du côté de Bruxelles et des États membres, qui trouvent que les États des Balkans ne font pas assez leur travail de réforme, et du côté finalement des pays des Balkans qui estiment qu'on leur met systématiquement des bâtons dans les roues, qu'on rajoute des conditions à chaque fois qu'ils se rapprochent de l'objectif.
Donc on est, et ça sera ma dernière question, Florent Parmentier, on va vers un élargissement de l'Europe dans les années à venir?
Le chemin de l'élargissement est tracé. Il est naturellement contingent à un certain nombre de progrès qui doivent être faits dans les États partenaires. La vraie question qui agite aujourd'hui les experts de l'Union européenne, c'est de se demander si il faut que nous gardions cette perspective d'élargissement comme une et indivisible, en quelque sorte, ou si nous devons aller vers des formes d'adhésion par morceaux programmés. Et donc c'est l'un des débats, effectivement, avec beaucoup de choses qui en découlent, notamment notre capacité à faire faire passer le message que les valeurs, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme sont importants et ne sont pas quelque chose qui sont secondaires dans le rapport entre l'Union européenne et ses candidats.
Merci Florent Parmentier d'avoir été ce matin dans notre studio. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, spécialiste des relations entre la Russie et l'Europe. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Direction Roland-Garros avec un angle, vous allez le voir, très particulier. Il est 7h48 sur Radio Classique.